Radio Classique, les spécialistes.
Les spécialistes, je vous le disais, avec Dimitri Pavlenko, avec Bernard Sananès, le président d'ELAB. Nous allons bien sûr parler d'un sondage très intéressant sur la popularité de devinez qui, eh bien d'Emmanuel Macron et d'Edouard Philippe. On parlera également remaniement, eh bien avec Bernard et avec Dimitri. Mais nous allons débuter avec l'international et Emmanuel Faux. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Renaud, bonjour à tous.
Nous faisons le point pour débuter ces spécialistes sur les relations plus que tendues actuellement entre la France et la Turquie. Depuis quelques mois, Paris accuse Ankara de violer l'embargo sur les armes à la Libye en jouant un double jeu sous le drapeau de l'OTAN. Et le ton, mon cher Emmanuel, ne cesse de monter.
Absolument, Renaud, et la dernière illustration de cette forte crispation diplomatique, on peut dire, c'est le propos sans nuance d'Emmanuel Macron, qui a dénoncé lundi dernier la responsabilité historique et criminelle, ce sont ces termes, des Turcs en Libye, avec hier, en guise de réponse d'Ankara, une demande d'excuses adressée à la France pour diffusion de fausses informations sur la Turquie. Alors, de quoi parle-t-on précisément? Eh bien, d'un incident maritime qui aurait eu lieu le 10 juin dernier, au large des côtes libyennes, lorsque la frégate Courbet, une frégate française sous commandement de l'OTAN, s'est retrouvée dans la ligne de mire d'une autre frégate, turque celle-là, qui escortait un cargo soupçonné de transporter des armes à destination de Tripoli. Voilà ce que dit Paris, qui dénonce un acte extrêmement agressif et qui a obtenu une enquête interne de l'OTAN. Mais faute de preuves irréfutables, eh bien cette enquête n'a pas été très concluante et la Turquie n'a pas été clairement pointée du doigt. La France, certes, a reçu le soutien verbal de 8 pays membres de l'Alliance Atlantique, mais rien de plus formel et surtout aucune mise en garde à Ankara. D'où cette décision de Paris qui a été annoncé avant-hier, de se retirer des opérations de surveillance maritime de l'OTAN en Méditerranée, un retrait temporaire mais qui vise à dénoncer l'attitude ambiguë des Turcs qui font du trafic d'armes tout en participant à des opérations anti-trafic. Alors au-delà de l'affaire de cette frégate Courbet, la France demande à l'OTAN de placer la Turquie devant ses responsabilités en brandissant toute une liste d'incidents qui montrent que l'embargo sur les armes est régulièrement violé par des navires turcs qui changent souvent de nom en cours de route pour déjouer les contrôles et à bord desquels on retrouve souvent du matériel militaire.
Emmanuel, la toile de fond de ces tensions, c'est bien sûr la situation toujours instable en Libye.
Oui, évidemment, c'est la toile de fond. La Libye est dans une partition et un chaos politique, vous savez, qui dure pratiquement depuis la chute du colonel Kadhafi en 2011. Ça fait maintenant 9 ans. Alors, vous avez d'un côté le gouvernement d'union nationale qui est reconnu par l'ONU, qui règne en gros sur l'ouest du pays et sur la capitale Tripoli. Et de l'autre, vous avez le maréchal Haftar qui tient le sud et l'est du pays. Ce dernier a le soutien de la Russie, des pays du Golfe et aussi de l'Égypte, qui voit en lui un homme à poigne, prêt à combattre l'islamisme local, un peu, si vous voulez, une sorte de général Al-Sisi, alors que le principal soutien du gouvernement d'union nationale, qui est dirigé par Fayez Sarraj, c'est la Turquie du président Erdogan, qui cherche à redevenir une puissance de référence sur les rives de la Méditerranée. Alors, pour les Européens, et en particulier pour les Français et les Britanniques, qui ont beaucoup à se faire pardonner hein, après l'échec de la guerre civile, il s'agit avant tout maintenant d'obtenir une pacification de la Libye avec le respect du cessez-le-feu entre les deux camps et le respect de l'embargo sur les livraisons d'armes qui avait été décidé il y a quelques mois, un embargo décidé par l'ONU et que l'OTAN est censé faire appliquer, y compris la Turquie, qui appartient à la fois à l'ONU et à l'OTAN.
Merci Emmanuel pour cette analyse très précise. Allez, nous allons quitter la Libye, direction la France avec Bernard et avec Dimitri. Bernard Sananès, le président d'ELAB. On va parler remaniement, on va parler de cette interview d'Emmanuel Macron dans la presse quotidienne régionale. On va débuter avec le baromètre ELAB, Radio Classique, Les Échos, parce que forcément, il est très intéressant avec ce qui se passe politiquement actuellement en France. La cote de popularité, Emmanuel Macron, 35%. Ça remonte légèrement, c'est à noter, mais surtout la cote de popularité d'Edouard Philippe, 43%, plus 4 points encore ce mois-ci. L'écart, j'allais dire, se creuse entre le chef de l'État et son Premier ministre.
Oui, Renaud, vous avez pointé comme d'habitude les deux points essentiels de cette enquête. Le premier, il faut le dire, c'est que la cote de confiance de l'exécutif est en légère progression, se stabilise. Oui. Vous vous souvenez, il y a quelques mois, on a vécu une impopularité encore plus forte avec la crise, notamment des masques, la gestion de la crise des masques. Et là, on a l'impression que, notamment face à la crise économique, et je pense qu'on va y revenir tout à l'heure, face à la crise économique, le gouvernement a remobilisé un peu ses soutiens. Et le deuxième enseignement, il tient en deux chiffres, 35-43. 35 pour Emmanuel Macron, 43 pour Édouard Philippe. L'écart n'a jamais été aussi grand dans ce sens. Et c'est vrai que la progression du Premier ministre, au-delà de la gestion de la crise, est maintenant assez forte. Sur 4 mois, 16 points. C'est extrêmement important. Je vais vous donner un autre chiffre qui est assez intéressant. C'est que la cote de confiance d'Édouard Philippe est plus forte chez les électeurs d'Emmanuel Macron du premier tour que la cote de confiance
80%,
du président de la République lui-même.
Oui.
Cela veut dire qu'il n'y a pas, et c'est très important par rapport aux événements dont on va parler d'aujourd'hui, il n'y a pas, en tout cas dans l'électorat d'Emmanuel Macron, de procès en déloyauté qui soit fait par Édouard Philippe. Il n'y a pas de rivalité. D'ailleurs, vous vous en souvenez peut-être, quand on demandait aux Français il y a quelques semaines est-ce que le couple exécutif fonctionnait bien, il répondait oui, de manière très large.
Alors évidemment, avec ces chiffres, on se pose toujours la question, est-ce que Édouard Philippe est trop populaire pour Emmanuel Macron, donc bye bye Édouard Philippe, ou au contraire est-il trop précieux et doit-il rester encore 2 ans? C'est la question encore ce matin.
Disons, Renaud, que la réponse ne nous appartient pas,
oui,
à nous,
qu'elle
appartient à un seul homme, c'est-à-dire le président de la République. Mais aujourd'hui, sur le strict plan de l'analyse de l'opinion, c'est évidemment le seul registre sur lequel, en tout cas moi j'ai une compétence, le Premier ministre est devenu un atout pour le président de la République. Il est devenu un atout parce que d'abord son image personnelle corrige un peu l'image du président de la République. Quand on a, vous savez, dans ces fameux verbatims des personnes sondées, pourquoi elles apprécient Édouard Philippe, on le voit bien que c'est sur deux choses. La gestion de la crise sanitaire, il a rassuré, il a fait le job, et également sa personnalité. Il tient la route, il tient le cap. Voilà ce que l'on entend à propos du Premier ministre. Et puis, on voit bien également qu'il a une fonction politique, le Premier ministre, c'est qu'il fixe une très grande partie de l'électorat de droite. Et quand on entend et quand on lit l'interview du président de la République ce matin, on voit bien que le cap réformateur est maintenu et que ce cap réformateur, il faut mobiliser à la fois l'électorat d'Emmanuel Macron et l'électorat de droite pour le soutenir.
On va en parler dans un instant. Vous faites très bien la transition, Bernard, c'est magnifique. On va en parler avec Dimitri. Juste un mot justement sur l'aspect politique de cette interview d'Emmanuel Macron. Bon, il faut lire entre les lignes, mais sans parler effectivement de changement de Premier ministre. Le chef de l'État dit clairement, il faut une nouvelle équipe.
Oui, il dit, il faut une nouvelle équipe. Mais c'est normal, on est à 1 an et demi du début de la campagne présidentielle. Et forcément, cette nouvelle équipe, elle est motivée aussi par le fait que sur certains pans de l'activité gouvernementale, il y a des lacunes, des carences. Il y en a une qui, dans ce baromètre, saute aux yeux. C'est bien sûr le problème du ministre de l'Intérieur qui perd énormément ce mois-ci. Christophe Castaner, très bas dans nos sondages de popularité, alors qu'en général, un ministre de l'Intérieur, il clive, mais il rassemble plutôt. Il y a évidemment un sujet pour des ministres qui sont très compétents techniquement, mais qui n'incarnent pas le sujet qu'ils doivent porter. Je pense à la question sociale, je pense à la question environnementale. À l'inverse, il y a 2 sujets, l'économie et la santé, qui sont aujourd'hui redevenus les priorités des Français dans la gestion de cette crise post-sanitaire, où à la fois Bruno Le Maire et Olivier Véran sont perçus dans l'opinion comme faisant le job.
Voilà, on a compris qu'ils vont certainement rester dans ce gouvernement. On parle d'ailleurs de Bruno Le Maire, on parle d'un ministère encore plus élargi, encore plus fort, tout comme d'ailleurs Gérald Darmanin. Dimitri, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt, évidemment, les propos du chef de l'État pour préparer cette matinale. Alors, il y a cette phrase, pas changement de cap, mais un nouveau chemin. Alors, vous allez essayer de me décrypter cela, et vous avez 2 minutes 30, c'est parti.
Non, mais Bernard disait les réformes vont continuer. Moi, je note quand même, il y a une inflexion vers plus de prudence quand même du chef de l'État quand il prend un nouveau chemin. En gros, il veut pas y aller tout seul. Hein. Il veut tenir par la main du monde autour de lui pour que relégitimer les réformes. Et donc, c'est essentiellement, donc, il pense aux partenaires sociaux. Sur les réformes, qu'est-ce qu'il dit ce matin, le chef de l'État? Alors, il dit beaucoup de choses. Il esquisse des pistes plus qu'il ne dévoile vraiment un programme. Il y a des choses qui sont prévues pour cet été. Le plan jeune, la semaine prochaine. Le grand âge également qui va.
Il y a la réforme des retraites dont il évoque, voilà, la réforme des retraites qui va continuer et qui va se faire.
Alors lui, c'est ce qu'il souhaite. Il dit, cette réforme des retraites, il faut pas l'abandonner. C'est une bonne réforme pour les plus fragiles, c'est une réforme efficace, dit-il, pour plus de justice sociale. Mais enfin, il remet quand même une pièce dans le jukebox sur la question de l'allongement de la durée de cotisation. Vous vous rappelez, il y avait eu ce débat à la sortie de l'été l'année dernière. Qu'est-ce qu'il faut faire pour financer le système? Est-ce qu'on met en place un âge pivot, qui est à la faveur plutôt d'Edouard Philippe, ou est-ce qu'on allonge la durée de cotisation? Et ça, on savait que c'était le scénario privilégié par Emmanuel Macron, et il le redit ce matin. Il prend un peu les Français au mot en disant, vous souhaitez vous réinventer, vous souhaitez une France qui soit plus sociale, plus écologique, plus équitable, plus juste. Dans ces conditions, il faut se donner les moyens de l'indépendance, et ça passe pour le sujet des retraites par un allongement de la durée de cotisation travaillée plus longtemps. Et il répond à cette question, c'est intéressant. Il dit ça, le chef de l'État, à une question qui lui est posée sur les 35 heures. Un des journalistes lui dit, mais est-ce que vous allez toucher aux 35 heures? Est-ce qu'on travaillera plus longtemps dans la semaine? Et lui répond non, plus longtemps dans la vie. Donc ça, c'est intéressant. Il répond pas à la question de la durée du temps de travail hebdomadaire. Est-ce que c'est une piste qu'il envisage? Ça, on ne le sait pas. En tout cas, c'est un sujet véritablement explosif. Après, autre sujet, il évoque beaucoup de dépenses aussi, Emmanuel Macron. Énormément d'argent.
Mais pas d'augmentation d'impôts.
Pas d'augmentation d'impôts. Alors là, ça va être le mystère de l'argent magique. Et il se voile un petit peu la face aussi, je trouve, parce que sur la question de l'hôpital, lui est posée la question du Ségur de la santé, qui est présenté comme un grand exercice de démocratie participative, où tout le monde est autour de la table. Ça donne quoi, ce Ségur de la santé ? Une enveloppe de 6,3 milliards, c'est-à-dire même pas la moitié de ce que pensaient obtenir les hospitaliers. Ça va être massivement des augmentations de salaire à l'hôpital, mais en termes d'investissement, on sait que notre hôpital, il a péché par un manque d'investissement, que ce soit en matériel, que ce soit en bâtiment. Et pour revoir une organisation là-dessus, il estime que tout ça va être mis en route. C'est quand même... Ça n'est pas écrit. Moi, je lis ce qui ressort du Ségur de la santé hier soir, et on est loin d'être parvenu à un accord qui nous promette des lendemains qui chantent sur la question de l'hôpital.
Alors, il faut toujours qu'il y ait de nouveaux visages, de nouveaux talents, des personnalités venues d'horizons différentes. Le choix des hommes et des femmes est important. Ça signifie, Bernard, une certaine ouverture vers l'écologie. Alors, peut-être pas vers Europe Écologie Les Verts, parce qu'il y aura une femme à recevoir, mais vers des personnalités qui pourraient incarner un courant et écologique en France.
Oui, c'est vrai que le président de la République, on le voit dans une autre question de avec nos questions d'actualité avec l'Institut Montaigne, on voit bien qu'il a une critique sur un soupçon d'insincérité dans l'opinion ces questions. Il n'est pas perçu comme un président, en tout cas aujourd'hui, qui soit vraiment actif sur l'écologie et l'environnement. Donc c'est vrai qu'il a besoin sur cette question-là d'avoir autour de lui des visages. Pourquoi ? Parce que le ministre de l'Environnement qui a commencé son quinquennat avec Emmanuel Macron, c'est Nicolas Hulot. Oui. Et que depuis, aux yeux de l'opinion, il n'a pas été remplacé.
Et il reste la popularité, la personnalité.
Il est hors concours.
Voilà, effectivement, préféré, j'allais dire des Français, Dimitri.
Mais sur l'écologie, je pense que c'est vraiment le sujet crucial sur lequel Emmanuel Macron a un coup à jouer pour se relégitimer en vue de 2022. Qu'est-ce qu'on fait en termes d'écologie? Est-ce qu'on a une vision décroissantiste, comme elle est portée par certains écologistes? Ou bien est-ce qu'on arrive à concilier le productivisme classique du président de la République en le verdissant? Ça, c'est un débat de fond. Est-ce qu'on peut réinventer nos industries, produire autant en verdissant? Ça n'est pas dit, ça n'est absolument pas dit. Aujourd'hui, comment on fait de l'écologie? On compense, c'est-à-dire vous émettez du CO2, et ben vous plantez des arbres pour compenser. Emmanuel Macron, il est un petit peu dans cette philosophie-là, même s'il pense qu'il est possible de changer les choses à la base, c'est-à-dire d'avoir une industrie qui soit intrinsèquement plus propre. Mais là, c'est là qu'est le cœur du conflit, parce que en réalité, ce que disent les écologistes, c'est on produit trop. On produit trop, on consomme trop. Et la crise du coronavirus a montré que par un effort, un arrêt brutal des choses, il y a une amélioration spectaculaire sur la qualité de l'air, notamment ça a été vu. Et ça, le chef de l'État, c'est pas un point à accorder à son crédit.
Alors justement, Bernard, il y a un autre sondage Elabe qui est très intéressant sur l'environnement et les Français. 61% de nos concitoyens pensent que l'engagement d'Emmanuel Macron pour l'environnement n'est pas sincère. Et puis il y a un autre chiffre qui est très très intéressant, c'est que 57% de ces mêmes Français pensent que l'impact des maires écologiste sur l'environnement sera faible, voire nul.
Alors, je donnerai deux, trois explications à ce deuxième chiffre. Le premier, c'est que les Français ont bien vu qu'il y avait une vingtaine de villes en tout qui étaient passées écologistes. Donc forcément, l'impact au global va être minime par rapport aux autres maires. Ça, c'est le premier point. Le second, c'est que autant sur notamment les sujets de pollution, on peut agir aussi au niveau local, les questions du climat, elles relèvent d'une échelle plus grande et les Français le savent bien. Et puis la troisième raison, on l'oublie, c'est que à partir du moment où vous êtes devenu élu, vous êtes devenu un responsable politique. Et donc la défiance, à des niveaux divers, mais qui s'exerce à l'égard de tous les élus, eh bien elle va commencer, elle n'est pas encore défiance, elle est en tout cas scepticisme, voire déjà première critique, sur des actions possibles des maires écologistes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la perspective de l'élection présidentielle dont parlait Dimitri à l'instant, ces mairies, ces municipalités vertes, elles vont être regardées un peu comme une vitrine de l'écologie politique. Est-ce que cela va vraiment changer quelque chose au-delà des symboles sur le long terme? Et c'est très important pour le mouvement écologiste qui a besoin encore de gagner en crédibilité. On le voit notamment sur les intentions de vote. On est très loin de l'élection présidentielle, mais il reste en dessous de 10%.
Dimitri, c'est un petit peu des accents churchilliens ce matin, hein, cet entretien d'Emmanuel Macron en disant, voilà, ça va être dur, la rentrée va être dure, il va y avoir des plans sociaux. Voilà. C'est quand même, c'est pas forcément que des bonnes nouvelles, hein, qu'il nous annonce ce matin, le chef de l'État.
Oui, il prépare les esprits à tout un tas de choses, c'est-à-dire que, effectivement, on a la crise, on l'a pas sentie encore véritablement avec les plans de soutien via le chômage partiel, les reports d'échéances pour les entreprises. Et vraiment, tout le monde le dit aujourd'hui, même en termes d'activité, ce sera à la rentrée le moment crucial. Vraiment, les chefs d'entreprise, vous leur dites l'été ça devrait passer, mais septembre ce sera décisif. Et c'est là qu'on prendra les décisions, notamment en termes de plan de licenciement.
Bernard, il nous reste 20 secondes. Qu'est-ce qui va se passer ce week-end? C'est voilà, comment vous sentez les choses?
Je ne ferai pas de pronostic. Hein.
Je ne vous demande pas le nom du prochain Premier ministre.
Mais normalement, le Premier ministre va sans doute remettre sa démission. Je serais étonné qu'il soit reconduit tout de suite. Je pense que le président de la République va laisser durer le suspense. Et soit il sera reconduit, soit il y aura un nouveau Premier ministre, puis sans doute un gouvernement en début ou au milieu de semaine. Ce sont toujours des équilibres compliqués entre les entrants et les sortants, les équilibres politiques, les équilibres territoriaux. Voilà, c'est un casting, comme on dit, compliqué.
Un casting compliqué. Merci Bernard, le président d'ELA, Bernard Sananès, et Dimitri Pavlenko, ce matin dans Les Spécialistes. Très bonne journée à vous, messieurs. Il est 7h55 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, David Barrault et son décryptage.